Je ne sais pas si vous avez maintenant des questions.
Merci beaucoup, Simon. Effectivement, j'allais proposer, si on le peut techniquement, de prendre des questions dans la salle, s'il y en a.
J'ai un micro là, je ne sais pas.
Oui, je peux faire. Non, pas de questions. Alors, me concernant, merci beaucoup pour cette présentation. Je la trouve hyper riche. Il y a énormément de sujets sur lesquels on peut rebondir à partir de présentations. Donc, comme je te le proposais initialement, je voudrais avoir, entre guillemets, deux approches différentes. C'est à la fois sur le fond du travail réalisé et puis, dans le cas des internes de niveau 2 qui sont là ce soir, plus revenir sur l'élaboration d'un mémoire de DES ou d'une thèse. Pour nous, en l'occurrence, les deux font l'objet de la même validation. Alors, pour revenir sur le fond, je voulais insister que tu puisses revenir là-dessus. Tu l'as évoqué au début de ta présentation sur ce qui se développe beaucoup pour nous maintenant. C'est tout ce qui est gestion de risque, assurance qualité, hein, qui va avoir son champ d'application dans le cadre de la réforme du DES. Son champ d'application se déployer. Tu as utilisé, je ne sais pas si tout le monde a pu suivre ta terminologie qui est toujours spécifique, mais tu as évoqué énormément de textes ou d'acronymes ou de termes associés à l'assurance qualité. Comment tu vois, toi, dans l'avenir de la pharmacie hospitalière, même si je pense que tu en es convaincu, le déploiement de cette analyse de risque, cette maîtrise de risque et ces systèmes d'assurance qualité?
Alors, le système d'assurance qualité, effectivement, il passe par des méthodes a priori et des méthodes a posteriori. Donc, a priori, c'est tout ce qui va concerner la cartographie des risques, les audits cliniques, audits ciblés ou non, que vous pouvez faire en service de soins, qui vont vous permettre de prioriser vos actions, parce que les actions, on peut en faire beaucoup, surtout, tout le temps. Après, l'idée, c'est d'être toujours le plus pertinent possible et donc de bien les sélectionner, de les hiérarchiser. Ça, c'est important. Voir quels sont les modes de défaillance les plus critiques de vos process. Et donc, je pense qu'en ça, quel que soit le process sur lequel on est, que l'on soit sur de la pharmacie clinique, de la conciliation, de l'éducation thérapeutique du patient, il y a des cartographies des risques qui se font dessus, sur les mauvaises informations données, sur les effets délétères de tout cela avec le patient. Voilà, vous pouvez le faire, mais sur des process de production, c'est beaucoup plus simple. Mais à l'échelle d'un établissement, c'est la même dynamique, hein. Vous prenez un service de soins, le parcours patient, en radiologie, ce que vous voulez. Et puis, les outils a posteriori. Une fois qu'il y a eu un événement indésirable, vous le savez, les événements indésirables sont extrêmement nombreux. Les événements indésirables graves associés aux soins, c'est un événement tous les 5 jours, dans un service de 30 lits. Je vous laisse faire le calcul pour le CHU de Caen, par exemple. Pour l'anecdote, ces chiffres-là ont été donnés par le CHU de Toulouse il y a bien longtemps. On leur a dit « waouh !» et ils ont fait le calcul une fois que ces chiffres HAS ont été donnés. Ils ne s'étaient pas trompés. Donc, c'est vraiment une réalité. Et donc, vous avez tout un travail de déclaration, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on déclare, c'est peut-être 10, 20%, on ne sait pas. On déclare une faible proportion de ce qui est réellement ce qui s'est réellement passé en service de soins. Donc il y a tout un travail a posteriori pour sensibiliser et faire déclarer les gens, et ensuite en faire quelque chose. Faire des comités de retour d'expérience, faire des revues de morbidité et mortalité. Donc effectivement, c'est des choses qui peuvent paraître assez techniques, mais dont on fait ressortir à chaque fois quelques mesures correctives fortes. C'est un peu la technique de Pareto, hein, économiste italien, la règle des 80-20. On agit sur 20% pour résoudre 80% des problèmes. Et c'est vrai que ça fonctionne. Mais il faut sensibiliser les gens à des méthodes qui font peur. Aujourd'hui, quand on parle de qualité gestion des risques, ça peut faire peur. Et donc, ces outils-là, pour moi, ont plusieurs places. Un, dédramatiser, dire que les erreurs, on en fait tous et on en fera tous. L'erreur est humaine, on le dit. Faire ensuite en sorte que ces erreurs soient analysées, que les gens en retirent un bénéfice. C'est ça tout l'avantage de la gestion des risques. Et puis l'outil peut servir derrière à évaluer les gens périodiquement, les professionnels, infirmiers, pharmaciens, préparateurs. On les fait passer sur une formation, et puis qu'est-ce qu'ils en ont retenu juste après la formation? C'est ce qu'on a fait ici, par exemple, avec des étudiants. C'était juste après la formation. Mais quelqu'un de sensé et de logique me dit « Oui, mais qui me dit qu'une semaine après, ils ont retenu ?» Effectivement, il faudrait tester. La rémanence des connaissances, c'est important. Des connaissances, compétences, j'englobe tout ça. Et donc, ces outils-là peuvent avoir leur place pour finalement recycler la formation et puis repasser sur un simulateur. Et surtout, je pense qu'il y a le côté, l'aspect pédagogique, la formation, la sensibilisation, c'est quelque chose qu'on sous-estime ou alors qu'on ne fait pas forcément bien. Et donc, il faut vraiment passer par des outils innovants. Il ne faut pas hésiter à répéter et reformuler. C'est les bases de la pédagogie. Mais ça passe aussi par des outils différents. C'est de la mise en situation numérique, physique, dans un centre de simulation, in situ. C'est ensuite, on fait un petit peu de théorie, on revient sur des notions de... Puis on refait de la pratique. Voilà. Je pense que c'est un continuum. Et je pense que, comme ça a été demandé et ça a été inscrit dans les maquettes des DES de médecine, le DES de pharmacie va suivre le même chemin avec un système de portfolio qui, à terme, il faut bien se le dire, sera certainement suivi sur la carrière professionnelle. Hein. Ça ne s'arrêtera pas à l'obtention de l'internat. Pour être certifié, recertifié, des modèles étrangers le montrent chez les médecins. Hein. On n'est pas médecin et on n'est pas spécialiste à vie dans une spécialité. Il faut se recycler. Et donc, ces outils-là peuvent avoir leur place.
Effectivement, enfin, je suis totalement en phase avec ce discours, avec l'émergence des systèmes d'assurance qualité ou une maîtrise des process. Tu l'as évoqué, associé à cette assurance qualité de façon intrinsèque et présente la formation des agents, quels qu'ils soient, que l'on doit mettre en œuvre dans nos différentes structures. À travers ça, donc, tu exposes ici l'outil de simulation. Et puis, ce que tu disais tout de suite, c'est-à-dire la capacité de multiplier les formats, c'est-à-dire proposer un maximum d'outils hein, sans avoir forcément un focus. À ce titre, tu présentais à la fin un format qui est effectivement important, c'est-à-dire être en capacité de former des agents sur la détection d'erreurs, mais aussi à un moment proposer un scénario sans erreur qui puisse être à destination des usagers qui sont maintenant partie prenante des process dans lesquels ils vivent, hein, ils évoluent. Hein, le patient est usager et acteur de sa prise en charge, et puis aussi pour les professionnels eux-mêmes, c'est-à-dire être en capacité de voir, entre guillemets, l'exemple concret d'une bonne prise en charge d'un patient, ce qui est aussi un axe de formation. Donc on a tout intérêt, effectivement, à démultiplier les supports de formation, et comme tu l'as mentionné également, à mettre le professionnel ou l'usager au cœur du dispositif, comme un acteur, quel que soit son rôle, de la prise en charge. Tu évoquais dans les outils de simulation, c'est vrai qu'on en voit beaucoup apparaître. Alors, tu as volontairement dit que l'aspect économique, tu ne revenais pas dessus. Enfin, j'aime à dire que de l'outil que tu présentes quand même, c'est qu'il il est particulièrement intéressant économiquement, parce que peu cher et puis très proche de la réalité.
Tout à fait.
Le nom, effectivement, est très bien choisi, c'est-à-dire qu'il est très immersif. Il y a beaucoup de serious games qui se développent, d'outils très techniques pour lesquels le professionnel, singulièrement, peut se trouver coupé de l'outil qu'on lui propose parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'il vit au quotidien.
Tout à fait.
Donc, de voir une vraie armoire, un vrai service, même s'il n'a pas la bonne blouse, un bon patient ou un bon médecin, ça le permet aussi de se projeter, de mieux s'immerger dans l'exercice proposé. Et je pense que l'atout de ce que vous proposez, de ce que tu présentes ce soir, est à ce titre particulièrement intéressant, au-delà du bénéfice économique sur lequel je voulais quand même revenir. Comment tu vois... alors, c'est vrai que pour l'instant, on voit beaucoup d'outils de serious game qui se développent. Comme tu disais au début, il y a un effet « waouh » parce que c'est un peu nouveau. Comme on l'a vu sur la chambre des erreurs, c'est vrai qu'au début, c'était très beau. Enfin, il y a eu une grosse mode sur ce sujet. De façon, on va dire, inhérente au service de soins. Maintenant, c'est en dématérialisé. Comment tu vois l'évolution après cela? Parce qu'on peut décliner sous tous les parcours, c'est ce que tu as présenté à la fin, bloc, sondage urinaire. Comment tu vois la suite de ce que tu connais, toi? Quels sont les outils qui nous attendent?
Les outils qui nous attendent, je ne les connais pas. En tout cas, je connais ceux qu'on propose.
Il reste à construire.
Ça reste à construire. Je pense qu'un axe fort restera le projet qu'on a là, le consortium avec les différentes sociétés savantes, puisqu'il a été structuré, pensé, pour en fait s'adapter à des recommandations 2016 et être à la base des recommandations 2020. Donc en fait, c'est l'outil qui permet de voir ce que l'on maîtrise des recommandations pour ensuite les faire évoluer au travers du retour d'expérience des professionnels eux-mêmes. Et donc finalement, c'est une imbrication, un lien vraiment fort entre ce qui est dicté par les sociétés savantes, ce qui est fait sur le terrain, pour comme ça, toujours. Parce que sinon, on peut dire, on peut fixer des niveaux de contraintes extrêmement élevés. D'un point de vue purement assurance qualité, je triple contrôle tout. Les directeurs risquent de ne pas être d'accord, mais je triple contrôle tout. Théoriquement, ça met quand même du verrou. Hein. Voilà, donc les recommandations peuvent dire des choses parfois un petit peu loin de la réalité. Et donc, je pense qu'il peut y avoir comme ça une adéquation entre l'offre et la demande, et puis mieux juguler et mieux être fité entre la théorie et la pratique.
Pouvoir prioriser vraiment là où on doit mettre l'énergie et les efforts.
Exactement.
Et puis à l'inverse de ce qui fonctionne plutôt bien, essayer de lâcher entre guillemets la pression.
Exactement. L'idée, parce que là en fait quand vous avez ce type d'outil-là, volontairement, les données ne sont pas automatisées. Parce que si vous automatisez, soit vous avez de l'intelligence artificielle derrière, ou des algorithmes, ça coûte cher, ça ne marche pas forcément. Et puis... on peut faire dire un peu tout et son contraire à une phrase en mettant une négation, une double négation. On peut perdre un peu l'électronique dans tout ça. Là, on a fait le choix de faire un mode très, très manuel. Alors, c'est un travail de fourmi titanesque. C'est pas automatisé, mais au moins, c'est un modèle low cost. Là, ce qu'on va proposer avec notamment l'outil sur le bloc opératoire et la prise en charge médicamenteuse, c'est qu'en fait, on va savoir combien de temps l'apprenant se connecte, par quoi il commence, combien de temps il passe sur chaque point d'intérêt, qu'est-ce qui répond aux questions. On aura possibilité également d'avoir des pop-up. Un petit peu comme dans la vraie vie, vous avez des interruptions de tâches. Ah, au fait, tiens, Martine, je t'ai pas dit, mais il y a le téléphone, là, c'est un médecin, c'est urgent, c'est pour toi. Comment vous faites face à ça? Alors que vous étiez en pleine réflexion, comme si vous étiez sur une pratique en train de... Mais oui, bah tiens, mais qu'est-ce que je vais faire derrière, quand je reprends, minute d'arrêt, mince, où j'en étais, je reprends tout, je pars à zéro. Voilà. Est-ce que je suis dérangeable? Est-ce que j'accepte d'être dérangé? On peut travailler ce genre de choses-là. Donc tout ça, ce sera recueilli, et ensuite, ce sera colligé dans le dossier de l'apprenant. Et on pourra en faire tout un tas de choses. Spontanément, vers quoi vont les gens? Ça se rapproche un petit peu de ce qui est fait dans certains centres de simulation avec l'eye tracking, savoir où regarde l'œil. Alors ça, c'est encore une fois, c'est du benchmarking de la communication, les publicitaires, les pubs Evian. C'est comme ça que ça marche. Il faut regarder dans la direction du bébé. Le bébé regarde où? Il regarde la bouteille d'Evian. C'est génial. Eh bien, c'est exactement le même phénomène. Et par exemple, on va savoir que... l'anesthésiste ou l'infirmier anesthésiste, il va regarder 90% de son temps, il va se focaliser sur un élément. Alors que finalement, ce n'est pas l'élément principal. Il peut être focalisé sur ses pouces seringues, sur la tête du patient, sur le bistouri du chirurgien, sur tout un tas de choses. Donc en fait, on peut aussi récupérer des informations comme ça très intéressantes pour voir un peu le comportement humain et voir finalement dans quelle mesure on peut lutter plus efficacement en mettant des verrous plus fins, à des endroits plus fins. Donc je pense que ça aussi, c'est une perspective. Alors c'est complexe, mais on peut assez facilement tendre vers ça. Si on pense à la formation innovante via les centres de simulation, équiper des lunettes qui intègrent ça, aujourd'hui c'est peut-être un petit peu coûteux, mais peut-être que dans 2-3 ans, ce sera finalement, à mon avis, assez modeste. Donc c'est des choses qu'on pourra derrière. Au débriefing, on aura les stats directement, et puis on aura un tableau de bord. Voilà, vous allez regarder ici, ici, ici. Il faut faire attention parce que vous détournez votre attention de la prise en charge, du tableau. Enfin voilà, on peut faire tout un tas de choses comme ça.
Alors, tu as également évoqué une notion particulièrement importante ici dans le cadre du PFRSA Caen, c'est la notion d'interprofessionnalité, hein, puisque maintenant, on a la chance dans ce PFRS de voir, j'allais dire, en coprésence différents professionnels de santé autour d'un établissement de formation. Tu as évoqué aussi la difficulté justement à mettre en musique cette interprofessionnalité. Hein, tu as évoqué sur l'expérience que tu as vécue d'avoir oublié les infirmiers. Tu as évoqué aussi ces histoires de glissement de tâches. Je pense que l'outil peut être justement intéressant, même pour des gens qui côtoient le process sans y avoir réglementairement autorité A. Ça peut être justement intéressant de positionner le rôle de chacun, même si l'aide-soignant, comme tu l'as mentionné, ne fait pas partie de la prise en charge médicamenteuse des patients. Ça peut être justement intéressant de rappeler le rôle de chacun à partir d'où je m'arrête, même si je n'y suis pas associé, de bien définir le rôle de chacun. Une donnée que j'ai trouvée intéressante sur laquelle je voulais revenir avec toi, c'est la participation à 2% de médecins. Justement, comment tu vois ça dans l'interprofessionnalité?
Alors c'est compliqué, c'est filmé. Vous avez deux catégories de médecins, ceux qui font des erreurs et ceux qui n'en font pas. Voilà. Donc déjà, tous ceux qui n'en font pas, vous les avez perdus parce qu'ils n'en font pas. C'est volontairement provocateur, mais je crois que si vous êtes vraiment sur le terrain, malheureusement, vous en avez. Et c'est un peu, vous savez, ces courbes-là où on est inconscient d'être compétent ou conscient d'être incompétent, et là, c'est l'inconscience de l'incompétence. L'incompétence au sens de je ne suis pas capable d'analyser mes propres pratiques au point de me rendre compte que je suis aussi moi faillible, moi humain. Un humain qui ne fait pas d'erreur, c'est un robot. Et encore, même les robots, ils font des erreurs. Donc ça, c'est la première chose. Après, je pense que c'est aussi peut-être quelque chose de générationnel, la relation à l'erreur, qui va bouger. Et bon, pour faire des formations à différents profils, avec différents publics, c'est vrai que les jeunes générations de médecins, je ne dis pas que les plus anciennes générations ne sont pas sensibilisées à l'erreur, mais les jeunes générations n'ont plus du tout le même comportement. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils font des erreurs et ils viennent même pour dire « je veux bien voir un peu où on fait des erreurs parce que je me questionne vachement ». Donc ça, c'est effectivement. Mais je pense que toute formation à l'erreur, globalement, il y a une difficulté de mobilisation des médecins qui ne se sentent pas concernés. Et puis, vous avez aussi tous ceux qui sont finalement pas concernés parce qu'ils se disent « non, mais moi, le médicament, je le prescris. Hein. Après, il est prescrit, il est administré. Hein. » Franchement, penser que le médicament est prescrit toujours, au bon moment, à la bonne dose, par la bonne voie, bien tracé, sans jamais y avoir aucune interaction, c'est quand même sacrément ambitieux de la part du médecin. Il pense vraiment que son process, il est infaillible. Donc, il y a aussi cela. Ceux qui se disent, moi, mon étape, elle s'arrête là, après, j'en suis plus responsable. Sauf que, pharmacien, infirmier, médecin, on est tous responsables, finalement, de toute la boucle. Et puis, si c'est défaillant, si on fait, là encore, pour revenir un peu plus sur le domaine d'assurance qualité que tu m'as demandé d'aborder, si on fait une analyse des causes, et notamment une analyse des causes profondes, on se rendra compte que, aujourd'hui, si vous lisez le rapport, notamment là, du guichet des erreurs, qui est assez récent, sur les erreurs, où est-ce qu'elles se trouvent, eh bien, elles sont très majoritairement à l'administration. Si on s'arrête à un niveau superficiel, qu'est-ce qu'on va dire? Les infirmières font mal leur travail. C'est superficiel, parce que c'est l'administration, c'est le rôle propre de l'infirmier à 95%. Or, si on va dans les causes profondes, les causes latentes, eh bien, on remarque quoi? C'est mal stocké, rôle du pharmacien, rôle du cadre. C'est mal prescrit, rôle du médecin, rôle du pharmacien en analyse. C'est institutionnellement, l'infirmière, elle n'aurait pas dû être là, elle aurait dû être chez elle. Ça faisait sa 8e garde en 3 jours, j'exagère volontairement. Il y a un rôle de l'institution. Et donc finalement, 80% des erreurs qui sont sur l'administration, le rôle infirmier, d'un point de vue erreur patente, eh bien finalement, c'est peu souvent l'infirmier. C'est souvent multifactoriel, c'est le diagramme de Reason que vous connaissez certainement. C'est un enchevêtrement d'éléments qui font qu'on arrive à l'erreur. Mais bien souvent, l'infirmière fait bien son travail. James Reason l'avait montré en les années 90, c'est lui qui a fait changer un peu les mentalités. Seulement 1 à 3% des erreurs sont intentionnelles. Les autres, c'est le système qui pousse à l'erreur. C'est quand même pas rien. Donc finalement, ça permet de se questionner et de se dire que effectivement, tout le monde, médecin, infirmier, et même effectivement un aide-soignant, qui voit une perf qui lui paraît bizarre, c'est de se dire, mince, là c'est bizarre, je vais peut-être aller dire à l'infirmière que c'est bizarre, ça flocule quand même dans le... C'est bizarre ça, au niveau de la voie veineuse, le patient il commence un peu à être pas bien. Voilà, il y a aussi cette réactivité à avoir. Mmh.
Donc comme on l'a dit initialement, c'est vrai que ces démarches, elles se renforcent. Le positionnement, comme tu l'as indiqué, des professionnels, il change. Hein. On est de plus en plus, et on le vit sur le terrain, dans des démarches d'auto-évaluation, d'évaluation des pratiques, quels que soient les formats. Et effectivement, il y a pour tous les professionnels de santé à changer leur positionnement et leur façon d'appréhender les processus. Alors dans une deuxième partie, je voulais plus m'attacher effectivement à évoquer avec toi, tu en as fait plusieurs allusions sur l'avancement du travail de rédaction, je crois que c'est la vocation du format thèse en poche, l'avancée de la rédaction d'une thèse. Alors tu as évoqué là aussi peut-être des gros mots sur lesquels tout le monde n'a peut-être pas forcément suivi, hein, du diagramme de Gantt, hein, qui permet effectivement de voir comment on programme, entre guillemets, l'avancement d'un projet et à partir de quel moment on arrive à suivre le cadencement de ce projet. Tu as évoqué aussi, hein, dans le matériel et méthodes, la volonté de définir comment on a travaillé, où on a travaillé, pouvoir être en capacité vis-à-vis de son lecteur d'exposer comment on a procédé pour qu'il puisse à tout instant refaire le travail potentiellement ici, par exemple, dans son établissement ou sur un processus un peu différent. Tu as également évoqué le fond d'un travail de thèse qui consiste à faire la synthèse pas comme tu l'as évoqué, à vouloir tout mettre, tout écrire et tout dire, mais plutôt à synthétiser le message, à sensibiliser des professionnels autour d'une pratique, à rendre universel aussi le travail qui a pu être fait à un moment dans un service donné, dans un établissement donné, pour pouvoir là aussi l'étendre à d'autres problématiques. Comment tu vois, quelles sont pour toi les difficultés autres qui peuvent se présenter à un étudiant qui ambitionne de rédiger sa thèse voie, par exemple, typiquement pour arriver à bien définir une problématique?
Ouais. C'est une vaste question. Vaste question. Déjà, pour la première partie de ta question sur le matériel et méthodes, je pense que on voit plein de papiers qui sortent avec matériel et méthodes, trois lignes, analyse statistique, et puis ensuite on passe au résultat. Et là, c'est du régal, on voit plein de choses, les courbes, etc. Ça monte, ça descend, c'est statistique. Mais en fait, le matériel et méthodes, il est ultra important. Il est très, très, très important, au point que sur ces différents outils-là, on a communiqué sur certains congrès uniquement sur la méthode. C'est-à-dire qu'au bout, ils n'avaient rien. On leur a juste dit, voilà ce qu'on va faire. On va faire comme ça. Il y a des écueils ici. Ça, faut faire gaffe. Là, on n'a pas fait ça parce qu'il y avait ça. Et en fait, rien que ça, ça intéresse les gens. La preuve, c'est sélectionné. Donc, pensez que votre méthode, elle est valorisante et valorisable. Vous pouvez en faire autre chose. Donc, déjà, vous allez trouver un autre intérêt à l'écrire. Déjà, rien que le fait de proposer un modèle innovant, que ce soit sur une étude. Il faut vraiment s'intéresser à l'interaction entre la prise d'IPP et la présence de Clostridium difficile. Je suis intimement convaincu qu'il y a un taux d'échec qui est plus important. Bon, banco, ça a déjà été montré. Dommage, c'est pas un bon sujet de thèse. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut le penser. Et de se dire que d'un point de vue matériel et méthode, comment je dois m'y prendre pour arriver à répondre à ma question? Et donc là, déjà, ça va vous faire quelques pages. C'est une des pistes pour moi, c'est trouver vraiment la bonne question pour derrière le matériel et méthode qui soit béton, et comme ça, après il peut y avoir aussi plusieurs matériels et méthodes en fonction de ce que vous voulez montrer. Vous pouvez développer plusieurs modèles, les confronter, se dire lequel est le plus efficient. Alors pour le choix de la question, finalement c'est le choix le plus difficile, parce que soit vous êtes intéressé par peu de choses, ce qui est assez rare, et là c'est très simple, vous aimez uniquement la nutrition parentérale en néonate. Je vous avoue qu'il va falloir s'intéresser à des problématiques qui tournent autour de la préparation, des poches, de nutrition parentérale en néonate. Ça doit être pas mal, ça. Par contre, si vous aimez la pharmacie clinique, vous aimez aussi la gestion des risques, puis vous aimez quand même bien aussi l'achat, approvisionnement de médicaments et de dispositifs médicaux, et puis vous aimez aussi la vigilance. Là, c'est plus complexe. Il faut déjà trouver un peu sa thématique. Donc, il faut avoir déjà une notion d'appétence. Si vous aimez ce que vous faites, derrière, ce sera plus facile à rédiger, parce que quand il faudra s'y mettre à 18h, 19h, 20h ou le week-end, à la place de sortir parfois, c'est sûr qu'il vaut mieux être motivé par ce qu'on fait, hein, sinon autant sortir. Et puis il faut aussi être pragmatique et rationnel. Soit vous êtes intimement convaincu qu'une idée que vous avez, c'est porteur, pas forcément aujourd'hui, mais ça le sera demain, et vous y allez, contre vents et marées. Le projet, on l'avait en tête depuis 2014. En fait, on a mis 2 ans à le maturer parce qu'on n'était pas prêt. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que 2014, c'est le tout début de la réalité virtuelle et le 360 existait un petit peu. Mais par exemple, sur ce projet-là, ce n'était pas suffisamment mature pour y aller. Donc on a commencé avec de la 3D. Le modèle aujourd'hui qu'on n'apprécie pas spécialement, dont on trouve ça complémentaire, mais je pense qu'il est encore trop onéreux aujourd'hui pour être utilisé, eh bien on a commencé par celui-ci, pour se rendre compte au bout de 2 ans, qu'au bout de 2 ans qu'on avait juste modélisé un lit et un patient, et que c'était moche. Et là, on s'est dit, il faut trouver autre chose, parce que très clairement, ou alors il faut payer très cher, ce que certains font, c'est un choix. Donc il y a aussi une question de savoir un peu où va l'avenir, c'est pas évident. Hein. Mais c'est vrai que si vous vous intéressez par exemple aux médicaments de thérapie innovante, aujourd'hui vous pouvez faire tout un tas de travaux, c'est demain, hein. On est d'accord, les médicaments de thérapie innovante. Donc peut-être qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément d'intérêt, mais demain vous allez être un référent, un spécialiste au niveau local, régional, national, ça peut être ça aussi. Donc il faut vraiment trouver un sujet qui porte. Et puis, en dehors de la portée scientifique, intellectuelle, on se fait plaisir, il faut aussi avoir la portée pragmatique, qui est ce qui va servir quand je serai pharmacien hospitalier. Alors, se faire une étude multicentrique sur voilà, la prise en charge d'un patient atteint de telles pathologies et travailler avec... avoir fait une énorme publi à la fin, c'est super. Mais le pharmacien hospitalier de terrain qui va vous demander de faire de la pharmacie clinique, de déployer un nouveau logiciel de la prescription, de gérer les vigilances, il va vous dire « votre étude est super ». Mais par contre, moi, au quotidien, qu'est-ce que vous m'apportez ? Alors que si vous avez développé un atelier d'éducation thérapeutique chez le patient HTAP, si vous avez déployé un logiciel WMS pour gérer les commandes de service, par exemple, voilà, des choses comme ça, c'est beaucoup plus pratico-pratique, certes, c'est peut-être en apparence moins ambitieux, mais c'est aussi beaucoup plus utilisable. Et je pense que c'est très important. Donc essayez de voir aussi ce qui intéresse un petit peu les pharmaciens chefs de service. Donc pour ça, il faut les questionner. C'est quoi vos grands enjeux de demain ? Et là, bah, s'ils répondent tous la même chose, essayez d'y aller quand même. Je pense que ça vaut le coup. Donc parce que vous pourrez répondre à toutes les offres d'emploi en disant « moi, ça, je sais faire. Et chez vous, je pourrais faire ça. » Et aussi, bah, par rapport à mon projet de thèse, on avait mis en perspective ça. Vous avez le budget pour le faire, les ressources humaines, et bien on y va. Voilà.
Je note que pour maturer ces sujets-là, effectivement, il ne faut pas attendre le 8e semestre pour s'y mettre.
Il faut regarder à chaque fois, poser la question. Quels sont les grands enjeux de demain ? Quels sont les grands enjeux de demain, selon vous ? Si un pharmacien, un chef, vous répond ça, vous répond pas, c'est embêtant, quoi. Je pense qu'il sait forcément quels sont ses grands enjeux à lui, de sa PUI, et puis ceux qui sont au niveau local, régional ou national.
Alors, dernière question, là aussi, pour faire le tour sur cet aspect thèse, et effectivement, qui est très important et que tu as souligné, c'est l'après. C'est-à-dire, la thèse, effectivement, n'est pas une fin en soi. Elle nécessite déjà, effectivement, d'être valorisée hein, au maximum de ce qu'elle puisse l'être. On a parlé de publication, mais en tout cas, que ça puisse être ce parcours obligé de la rédaction de la thèse, pas uniquement un exercice obligé, mais une vraie valorisation au sein d'une maquette, au sein d'un parcours d'un étudiant, pour dire, voilà, mon parcours, il a abouti à ça, je suis allé jusqu'au bout du projet, de la démarche, comme tu l'as mentionné, et ça aboutit à ça, et derrière, comme tu l'as mentionné, j'ai rebondi et j'ai pu poursuivre le projet au-delà de la thèse, et je pense que ça, c'est important de le rappeler ici au cours de cette présentation, pour pas que la fin, comme tu l'as mentionné, la thèse ne soit pas la fin, même si c'est le cas, d'un parcours
cycle,
étudiant.
C'est mais le début d'un autre. Hein.
Voilà, c'est le début d'une carrière professionnelle, donc ça doit aussi être, tu l'as dit, hein, c'est effectivement une carte de visite, hein, c'est quelque chose qui apparaît, que l'on relève aussi, même si tous les étudiants la soutiennent au titre du concours PH, qui constitue donc à ce titre, comme tu l'as dit, une carte de visite, et c'est important, je pense, ici, de le rappeler.
Tout à fait.
S'il n'y a pas de questions complémentaires, je te remercie encore vivement pour ta présentation. Je crois qu'on peut applaudir Simon pour son travail. Je remercie tout le monde d'être venu ce soir, et puis au prochain Thèse en poche.